Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Freddy Ethan, bonsoir.
Bonsoir.
Freddy Ethan, vous êtes ancien diplomate israélien. Votre dernier ouvrage paru aux éditions Ballant, Adama, Israël, hier et aujourd'hui. Alors, Freddy Ethan, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, est en Israël. On n'a jamais vu un tel soutien américain à Israël depuis le 7 octobre. Vous l'expliquez comment, vous ?
Écoutez, vous avez tout à fait raison. Le général Austin, secrétaire d'État à la défense, est venu en Israël avec son chef d'état-major régional, et sa préoccupation est surtout le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire les rebelles houthis qui menacent donc la navigation en mer Rouge. Et ça, c'est une préoccupation non seulement américaine, mais aussi française, européenne et internationale. Donc il y a une coordination avec Israël. Et dans ce cadre-là, évidemment, on a parlé de Gaza et surtout l'après-Gaza. Mmh. Pour l'heure, les Américains ne font pas pression sur Israël et ils ne vont pas arrêter les combats. Les combats se poursuivent et ils sont très, très, d'une façon la plus intense que nous avons connue, surtout dans Khan Younes. Et Khan Younes, c'est le bastion des chefs du Hamas que nous devons retrouver sous terre ou exactement autre part dans d'autres régions. Je vous rappelle que le Hamas a 24 bataillons. Nous avons éliminé dans le nord donc de ce territoire une partie des bataillons. Mais les bataillons du Hamas continuent non seulement à jouer un rôle très important dans les tunnels aussi, mais il y a aussi des sorties, donc des trappes, des problèmes, et ils peuvent encore lancer des missiles puisque une partie de l'arsenal n'a pas été détruite. Alors donc c'est ce contexte-là qu'il faut comprendre, que les Américains sont avec nous. Évidemment, il y a des divergences avec les Américains, il faut le dire, surtout entre Benjamin Netanyahu et le président Biden.
Alors, ces divergences concernent bien évidemment l'après-Hamas dans la bande de Gaza. Les Américains avaient évoqué pendant un temps que l'autorité palestinienne modifiée, renouvelée, puisse gérer de nouveau la bande de Gaza, comme c'était le cas avant 2005. Pour Benjamin Netanyahu, il n'en est pas question, et la question bien évidemment qui se pose est de savoir qui va gérer ce territoire, en sachant que au sein même du cabinet israélien, beaucoup ne veulent pas que l'armée israélienne réoccupe totalement la bande de Gaza.
Écoutez, vous avez tout à fait raison, il y a des divergences au sein même du cabinet, puisque surtout entre Gantz et Netanyahu. Netanyahu dit un niet catégorique à Biden et dit il ne veut pas de l'autorité palestinienne, et il rappelle les accords d'Oslo. Sur le fond, il a raison, parce que il faut dire que Mahmoud Abbas n'est pas capable donc de gérer les affaires non seulement en Cisjordanie, mais il n'est pas capable non plus à Gaza. Il est depuis 2006 persona non grata donc à Gaza. Il ne peut pas gérer les affaires. Par contre, il pourrait éventuellement être soutenu par ce qu'on appelle une coalition internationale, par l'Arabie Saoudite, par les Émirats Arabes Unis, évidemment par les États-Unis et surtout de l'Égypte. Donc il faut trouver une formule comme quoi les Israéliens pourront se retirer de Gaza. Parce que Israël, je ne crois pas, et personne n'en veut, de continuer à administrer donc la bande de Gaza. Il n'est pas question. Et vous savez, au moment où je vous parle, le Hamas vient de publier des images, donc une vidéo, de trois otages, de vieux otages. Trois noms ont été donnés. Un certain Metzger, un autre Cooper et un autre Perry, trois qui ont un âge assez avancé, de 75 ans à 84 ans. Et ils sont tous de Nir Oz. Et ils demandent donc, le Hamas joue une guerre psychologique pour dire voilà, nous sommes prêts à les libérer tout de suite, à condition que vous arrêtez les combats. Et là, et c'est là le problème. Et comme vous le savez, c'est la deuxième fois que le chef du Mossad, Dadi Barnea, a rencontré donc le premier ministre du Qatar, mais aussi le chef de la CIA qui était présent donc dans ces négociations. Et là, il y a une avancée. Il y a, je suppose, dans les jours qui viennent, on va relâcher probablement, nous, une partie donc des terroristes qui sont détenus. On a arrêté d'ailleurs que ces jours-ci, cette semaine, 400 terroristes dans la bande de Gaza. Donc c'est un atout considérable. Nous avons évidemment dans les prisons israéliennes plus de 6000. Donc il est important de faire cet échange le plus rapidement possible parce que le temps presse et les pressions aussi des familles sont importantes. On le voit chaque soir à Tel Aviv.
Alors là encore, il y a des divergences entre, on le comprend aisément, entre le Hamas et Israël. Israël est sur la ligne d'une trêve, d'une pause dans les combats pour la libération des otages. Mais du côté du Hamas et du côté de Hayya Sinwar, eux veulent un cessez-le-feu total qui pourrait leur garantir une certaine victoire en échange de la totalité des otages. Alors, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle trêve comme on en a connu il y a quelques semaines de ça avec la libération d'otages ou c'est un plan qui vise à un cessez-le-feu beaucoup plus important ?
Il y a deux phases. Nous voulons tout d'abord libérer ceux qui ne sont pas été libérés. Comme vous le savez, il y a eu 10 femmes qui devaient être libérées avec 2 enfants. Ils n'ont pas été libérés à la dernière minute puisque le Hamas n'a pas tenu donc cet accord. Donc il y a, pour une première phase, on va libérer quelques-uns, une dizaine, peut-être plus, on l'espère, et probablement ces 3 vieux qui sont encore en otage donc dans la bande de Gaza. Pour une deuxième phase qui va probablement mettre un peu de temps, on va libérer beaucoup plus de personnes et on souhaite terminer donc cette complexité donc dans les négociations et ce problème là qui existe aujourd'hui. Mais comment faire? Arrêter les combats, c'est une victoire pour le Hamas. Une pause. Les Américains nous laissent le temps jusqu'à au moins la fin de l'année, je dirais même jusqu'à Noël, c'est-à-dire le 25 décembre, dans quelques jours. Donc il y a là une situation où d'une part, Netanyahu veut poursuivre les combats, mais d'autre part, les Américains font pression pour arrêter ces combats, mais nous laissent aussi un terrain libre. Et donc il faut à la fois la diplomatie d'une part, mais parallèlement continuer donc le combat pour que le Hamas, la pression sur le Hamas, rapporte ses fruits. Parce que effectivement, quand le Hamas se voit encerclé et quand il est sous pression, évidemment, il lâchera quelques otages et nous l'espérons que ce sera dans les jours qui viennent.
Freddy et Tan, tout le nord de la bande de Gaza est pratiquement sous le contrôle israélien. Une bonne partie du sud de la bande de Gaza, et notamment autour de Beit Hanoun, connaît des combats. Comment se fait-il que aujourd'hui l'armée israélienne n'a pas eu source ou n'a pas eu d'information de l'endroit où pourraient se trouver certains otages ?
Écoutez, on a recueilli des informations des otages qui ont été libérés, puisqu'il y a eu, comme vous le savez, il y a eu des otages libérés. Oui. Donc il y a là des informations assez importantes, d'une part. D'autre part, il y a une certaine technologie, il y a le renseignement, il y a des détenus qui ont parlé, devant le Shin Bet, qui nous ont informés pour des informations. Mais comme vous le savez, le problème, c'est que les otages sont dispersés un peu partout sur tout le territoire. Et on ne sait pas exactement où ils sont. Et c'est là le drame. Il y a eu cette bavure, cette tragédie, oui. Donc, où on a tué 3 otages parce qu'on ne savait pas s'ils étaient. Et ils étaient dans le nord de Gaza. Donc, tout cela nous montre par là la complexité et le drame de chaque jour. Et aujourd'hui, on a appris maintenant que 7 soldats sont tombés cette journée dans Gaza. Donc chaque jour, des soldats tombent. Il y a les otages, il y a les familles. Donc c'est très compliqué. Et donc il est important pour les Israéliens de faire le maximum, d'abord de sauver les otages, le maximum d'otages, et après continuer la guerre. Et c'est là le grand dilemme.
On va dire un mot sur la frontière nord avec le Hezbollah, qui continue de tirer des missiles anti-chars, des missiles à longue portée. Le patron de la FINUL, qui est la force intérimaire des Nations Unies au Liban, le général Lazzaro, a déclaré aujourd'hui que la situation est extrêmement tendue et extrêmement dangereuse. Bon, on connaît le rôle de la FINUL qui en fait ne fait rien si ce n'est de dire que la situation est dangereuse et tendue, mais au-delà de cette réflexion, est-ce que Israël va continuer à répondre à ces tirs sans, on va employer le mot, sans finalement ouvrir un second front, un front important sur le nord pour éradiquer aussi cette menace qui est aussi importante que la menace du Hamas?
Oui, elle est plus importante, évidemment. Comme on sait, le Hezbollah, évidemment, a 200 000 missiles. Le Hezbollah est beaucoup plus armé. Le Hezbollah, évidemment, avec Nasrallah, ce sont des milices bien, bien entraînées et ils connaissent parfaitement le terrain. Dans le contexte actuel, c'est une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui a débuté juste effectivement le lendemain donc du 7 octobre. Israël et le Hezbollah essaient de nous provoquer chaque jour. Il y a des tirs, il y a des drones qui arrivent, il y a des provocations, il y a des missiles qui sont lancés et on a vu ce soir encore à Kiryat Shmona, donc il y a eu des missiles qui ont été lancés. Comment faire? Est-ce qu'Israël est capable aujourd'hui d'ouvrir un nouveau front? Non, elle n'est pas capable pour l'instant d'ouvrir un nouveau front, puisque nous avons aussi un troisième front, c'est les Houthis du Yémen. Donc nous voulons essayer de maîtriser la situation. Comment faire? C'est riposter à chaque attaque, et pas plus, pour ne pas ouvrir un nouveau front. Mais comme vous le savez, même Benny Gantz, quand il a reçu Elisabeth Konola, donc la chef de la diplomatie française, il lui a dit, écoutez, nous nous préparons à un nouveau front, nous nous préparons peut-être à une guerre contre le Hezbollah. Et donc c'est une option, nous nous préparons effectivement, mais nous devons d'abord achever la guerre par la bande de Gaza.
Ouais. Vous parliez de la menace Houthi. Les navires de guerre présents en mer Rouge s'occupent de cette menace-là. Les Américains, les Britanniques et aussi les Français qui ont détruit plusieurs drones lancés par les Houthis qui volaient vraisemblablement en direction d'Israël. On va dire que c'est un front qui est un peu moins sous observation israélienne, bien qu'il soit très surveillé.
Écoutez, c'est un casus belli, comme vous le savez. La guerre de six jours a éclaté avec le détroit de Tiran, oui. Vous le rappelle.
Bien sûr.
Donc il y a là une situation, un casus belli que nous devons réagir. Et ce n'est pas seulement une question israélienne, un problème israélien, c'est international. Parce qu'il y a quelques rebelles qui arrêtent complètement la navigation internationale. Les bateaux ne peuvent pas circuler, ils doivent faire tout un détour jusqu'à le détroit de Gibraltar pour arriver à destination. C'est incroyable. Pourquoi le canal de Suez a été creusé par les Seps à l'époque? Donc c'est pour effectivement raccourcir donc le trajet. Et donc il y a là un problème économique aussi pour Israël, parce que plusieurs compagnies ne veulent plus circuler dans ce détroit, et donc nous nous trouvons dans une situation à la fois économique, mais aussi militaire, et nous supposons que la coordination internationale pourrait trouver des solutions et arrêter donc ce chantage et cette piraterie donc maritime.
Un dernier mot avec vous, Freddy Etan. On va parler du front intérieur. Comment les Israéliens vivent depuis que le gouvernement, le cabinet de guerre, a décidé la mobilisation de 360 000 réservistes entre le nord et la bande de Gaza. Comment vit Israël socialement et économiquement depuis le 7 octobre ?
Écoutez, c'est très difficile et même les aides promises par le gouvernement ne sont pas tout à fait données donc aux nécessiteux. Il y a, comme vous le savez, déjà même avant le 7 octobre, il y a eu, comme vous le savez, plus d'un million de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc il y a aussi des faillites, des personnes qui ne peuvent plus travailler. Il y a un chômage croissant. Il y a un problème probablement d'inflation demain. Il y a donc des entreprises qui peuvent faire faillite. Donc tout cela, et on doit prévoir. Il y a un cabinet économique qui fonctionne tant mieux que mal, mais on a un autre problème, c'est que certains budgets sont destinés donc dans le cadre ce qu'on appelle de la coalition avec les Haredim, c'est-à-dire avec les ultra-orthodoxes, que nous devons respecter. Et là, le gouvernement doit dire stop, nous devons d'abord investir cet argent, tout ce budget, à l'effort de guerre et non pas pour des raisons budgétaires ou des questions politiques et de coalition.
Freddy Etan, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien et dont votre dernier ouvrage, Adama, paru aux éditions Balan, Israël, hier et aujourd'hui, ce sont des témoignages de ce que vous avez vécu depuis de très nombreuses années. Merci et bonsoir à vous.
Bonsoir, Shalom.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.